Bonjour tout le monde, et voilà le plat de résistance, les vieux fourneaux, aujourd'hui en formation réduite, puisque salut fraternel à nos amis qui sont un peu sur le flanc, Thierry et puis aussi Daniel, mais bon, une émission qui s'annonce très intéressante avec le mouvement social en pointe. On va commencer par les interviews qu'on a faites lors de la grève reconductible dans l'éducation nationale à Bordeaux, qui s'est passée le 6, 7 et 8 février. Alors bonjour Catherine Dudesque, secrétaire de la FSU, membre du SNES Gironde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit devant le rectorat et il y a une grève reconductible.
Oui, aujourd'hui, il y a un appel net à se mobiliser après le 1er février, qui est un vrai succès, parce que en particulier en collège, sur les groupes de niveau, on ne cédera pas.
Alors ces groupes de niveau, c'est un des ressorts de la mobilisation, c'est vraiment du tri social dont on ne veut pas.
C'est les groupes de niveau, ils illustrent à eux seuls leur conception de l'école. D'un côté, une école pour les pauvres, l'école publique, et de l'autre côté, pour les bien-nés, on va dans le privé.
Alors dans ces groupes de niveau, il y aura les bons, les moyens, les mauvais, mais tout ça c'est de la frime, il n'y a pas de moyens supplémentaires.
Mais en plus c'est même pas une question de moyens, c'est une question d'idéologie, on ne trie pas les élèves, on travaille à l'hétérogénéité pour faire réussir toutes et tous. Et de toute façon ça fait des années qu'on n'a plus de moyens. Quelles que soient les réformes qu'ils proposent, c'est sans moyens.
Le problème c'est que vous avez demandé depuis des années et des années d'avoir des créations de postes, d'avoir des plus petits effectifs pour aider ceux qui en avaient besoin. Et depuis je ne sais pas combien de temps, c'est toujours le même discours.
Oui, c'est toujours le même discours. Et puis même, on est tellement déconsidérés et pas payés que les jeunes tentent même plus le concours pour être enseignant ou enseignante. Donc vraiment, on voit la décrépitude du service public. Et on parle des profs, mais qu'est-ce qu'on devrait dire des vies scolaires? Qu'est-ce qu'on devrait dire des infirmières scolaires, des assistants sociaux, des psy-EN, des documentalistes? En fait, on manque de tout.
Alors ce manque, il est organisé, il est voulu, il est délibéré. Il correspond à une politique finalement ultralibérale de l'école.
Oui, une politique ultralibérale de l'école. Et puis ce que nous, on ne fait plus, eh bien, on le délègue au privé, on sous-traite. Voilà, des partenaires extérieurs, mais réfléchir ensemble à maintenir l'hétérogénéité des classes, à maintenir des effectifs raisonnables et à trouver des personnels, ça, c'est pas le projet de ce gouvernement.
Alors ce gouvernement, il y a une ministre qui est extrêmement contestée. Est-ce que vous pensez que le changement de vie de ministre, qui est peut-être envisagé, va modifier les choses?
Alors, ça soulagerait. Symboliquement, elle a tellement cristallisé leur vision de l'école qu'elle partirait, ça nous soulagerait vraiment. Mais après, on ne se leurre pas. C'est la chasse gardée de Macron, l'éducation. Il a clairement maintenu des annonces dans son discours. C'est notre bataille collective qui permettra de faire bouger les choses.
Alors, est-ce que vous croyez toujours à une équipe éducative soutenante, accompagnante et permettant à tous de réussir?
Ben oui, autrement, j'aurais changé de métier.
Merci beaucoup, Catherine Dudès. Bonjour, Fabienne. On est devant le rectorat. Alors, donc, au lycée des Iris, comment ça se passe, cette réforme?
Alors, nous, on n'a pas de réforme directement puisqu'on est en lycée, mais par contre, on perd des heures. Ça veut dire qu'on a des effets seuil. On va perdre une quarantaine d'heures l'année prochaine. Et donc, en fait, il y a toute une partie des dédoublements qui a disparu.
Donc, ça veut dire qu'en fait, ils déshabillent le lycée pour mettre des moyens ailleurs ou pas du tout?
Alors, c'est pas avéré que ce soit ça, mais en tout cas, nous, on a perdu un peu des élèves en terminale. Donc, en fait, ils retirent l'ensemble des moyens d'une terminale. Peut-être cette terminale, on la retrouvera en juin. Voilà, mais en attendant, en fait, on perd une quarantaine d'heures.
De toute façon, dans les lycées, il y a une question de sureffectif.
Ah ben là, nous, on est majoritairement à 35. Il y avait deux petites classes, en fait, deux classes non dédoublées. Mais sinon, la moyenne, c'est 35, oui.
Donc ça veut dire qu'à 35, c'est très compliqué d'aider les élèves en difficulté?
Ah ben là, l'année prochaine, parmi les choses qui disparaissent, c'est une partie des dédoublements en EMC. Donc c'est bien, on va bien faire de l'EMC, des débats, de la recherche à 35.
Tu peux dire ce que c'est l'EMC?
C'est l'éducation civique et morale.
Et donc, on l'enseignait cette discipline en petits groupes?
Alors, la plupart des petits groupes avaient déjà été pris, en fait. On était un des rares établissements qui les avait conservés, ce qui nous permettait de faire des choses quand même intéressantes avec les élèves. Bon, ben là, on va être en classe entière. Donc on va faire cours de manière très traditionnelle. Donc, développer l'esprit critique des élèves, les faire débattre, s'opposer, discuter, tout ça, là, ça disparaît, oui.
Et on a l'impression que cette stratégie du choc, c'est plutôt le choc contre les établissements publics.
Ah ben oui, là, c'est le choc contre les établissements publics. Alors, je dirais pas forcément contre les établissements publics, je dirais plus spécifiquement, en fait, quand je pense au collège, moi, contre les pauvres. Parce que c'est ça, quand même, le nerf de tout ça, c'est qu'en fait, on considère qu'une partie des élèves n'a plus sa place dans des classes normales, au lycée, et donc il faut les exfiltrer. Voilà. Et donc on est en train d'organiser tout un parcours de délestage de ces élèves-là qui viennent des milieux populaires.
Donc ça veut dire qu'en fait on va les abandonner et on va les envoyer direct sur le marché du travail ?
Je pense, mais alors le marché du travail, je pense, n'a pas envie d'avoir des collégiens. Hein. C'est quand même une réalité. Hein. Le marché du travail, il est plutôt intéressé par des élèves post-bac, hein, mais pas par des collégiens.
En même temps, la réforme du lycée professionnel, elle va quand même dans ce sens-là aussi.
Oui, tout à fait, oui. C'est se délaisser, se débarrasser des élèves, des milieux populaires. Et revenir en arrière, revenir à ce qui était avant, où c'était les entreprises qui formaient les gens.
Donc là, c'est le collège de la relégation.
Oui, c'est le collège de la relégation, en fait.
Merci beaucoup, Fabienne Saint-Ex. Bonjour, on est là devant le rectorat. Il y a un mouvement de grève reconductible. Et là, vous avez un panneau. Pas d'apartheid scolaire à Mandela. Que vient faire Mandela ?
Alors, c'est par rapport au nom de notre collège. Nous, on a un collège Mandela, on est un collègue en REP, et donc on ne veut absolument pas qu'il y ait de ségrégation et d'apartheid par rapport à nos élèves de REP.
Aujourd'hui, vous pensez que ces groupes de niveau, c'est du tri, c'est de la sélection ?
Alors, nos élèves se sentent déjà stigmatisés parce qu'ils sont en REP, et d'autant plus les élèves qui seront dans les groupes dits faibles se sentiront certainement encore plus stigmatisés que les autres.
Vous voulez dire des groupes faibles, ça veut dire qu'on va mettre les élèves porteurs de handicap, les élèves d'origine étrangère, les élèves mauvais en dictée ?
Alors, nos élèves sont déjà en difficulté. Alors, ils sont encore plus en difficulté depuis le Covid, parce que nous, on voit la différence par rapport aux élèves des cités qui ne bougeaient pas beaucoup et des élèves qui habitaient dans, entre guillemets, des petits pavillons. Il y a vraiment une différence. Et donc, nous, on pense que les élèves seront encore plus stigmatisés. Et on a des élèves d'origine étrangère et qui ont des difficultés de langue, et on pense que ça sera vraiment un problème pour eux.
Donc en fait, mettre les élèves en difficulté ensemble, c'est une régression politique.
Oui, tout à fait. Et nous, d'autant plus que dans notre collège, on avait des groupes de moyens, c'est-à-dire que les classes étaient hétérogènes, et on travaillait par petits groupes pour justement aider les élèves qui étaient en difficulté, et les élèves dits bons, parce que bon, il n'y a pas forcément d'élèves bons, mais des élèves qui réussissent, ça leur permettait d'être aidés par d'autres élèves, et nous, on pense que c'était cette façon-là qu'il fallait faire, réduire les effectifs pour que les élèves puissent travailler correctement, mais en hétérogénéité.
Donc en fait, le problème de fond, c'est un gouvernement qui affaiblit les services publics et qui ne recrute pas les professeurs nécessaires.
Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des enseignants en plus pour pouvoir faire des petits groupes et que les élèves puissent réussir et travailler tous ensemble.
Et là, aujourd'hui, on parle d'un changement de ministre avec, on ne sait pas trop, mais est-ce que vous pensez que le changement de ministre, ça pourrait apporter un peu une inversion des choses?
On a eu Gabriel Attal, on a eu Amélie Oudéa-Castéra. Je ne pense pas que le changement de ministre, c'est un changement de politique par rapport à l'éducation nationale qui serait important. La personne en elle-même, ça ne sera pas le plus important. Il faut vraiment changer de politique par rapport à l'école publique.
Merci Lionel.
On est là, on est là. Même si Castéra veut pas, nous on est là. Pour le respect des enseignants, des élèves et des parents. Même si Castéra veut pas, nous on est là. 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 On est là.
Alors, on est là, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que le changement de ministre qui est intervenu avec l'arrivée de Madame Belloubet ne modifiera pas la mobilisation dans les établissements. Aujourd'hui, en Gironde, il y a tout un tas de collèges où il se passe des actions contre cette réforme, ce choc des savoirs initié par notre cher président. Et on peut citer Bourg-sur-Gironde, on peut citer tout le bassin d'Ibourg, le Hadjé et compagnie. Et cette mobilisation, elle va durer. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour le service public d'éducation. On va se retrouver peut-être après le journal pour justement écouter à nouveau le témoignage d'une enseignante, Larissa. À tout à l'heure.
Vous écoutez RFI le midi à Paris, 11h en temps universel. Le journal vous est présenté par Marion Cazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Laurence, bonjour à tous. Bienvenue dans RFI Midi, votre édition d'information de la mi-journée avec nos chroniques, nos reportages, nos invités pour faire un tour de l'actualité internationale dans Afrique Midi. Retour évidemment sur le sacre de la Côte d'Ivoire, vainqueur de sa CAN la nuit dernière face au Nigeria 2-1, un scénario de rêve alors que les éléphants étaient loin d'être partis du bon pied. L'OTAN et les Européens face à Trump, s'il est réélu en novembre, ce dernier a évoqué la possibilité de ne plus défendre certains pays de l'OTAN dans un contexte de guerre en Ukraine. Alors les Européens organisent leur défense. Ils se préparent à peut-être faire sans les États-Unis. On en parle avec l'invité international. Avec l'invité France, on reviendra sur les blocages qui se poursuivent à Mayotte dans l'océan Indien. Des collectifs citoyens manifestent leur colère contre l'insécurité, face à l'insécurité et l'immigration. Mais d'abord, c'est le journal.
RFI Midi.
On reviendra également sur les propos de Trump sur l'OTAN et les réactions de l'Alliance transatlantique. Une alliance qu'a rejoint la Finlande il y a moins d'un an. Le pays vient d'élire Alexander Stubb comme président. Le conservateur a remporté le scrutin hier avec 51,6% des voix. Et puis, à Gaza, les activités de l'UNRWA toujours menacées alors que la population continue de vivre sous les bombardements. L'OTAN ne peut pas être une alliance à la carte. Nouveau message des Européens ce matin à l'intention de Donald Trump. L'ancien président américain candidat pour le scrutin de novembre a de nouveau critiqué l'alliance transatlantique. Déjà il y a 7 ans, il l'a qualifiée d'obsolète et il y a quelques jours, il déclarait qu'il ne protégerait pas contre la Russie, un pays qui ne paie pas sa part des défenses militaires, ce qui lui a valu une levée de boucliers aux États-Unis mais aussi outre-Atlantique. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Au sommet de l'OTAN, à Bruxelles, en 2018, Donald Trump a obtenu que les alliés européens s'engagent à tenir leurs objectifs, consacrer 2% de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires. Elles avaient atteint l'année précédente leur niveau le plus bas. Depuis, la situation a totalement changé. La guerre en Ukraine est passée par là. La quasi-totalité des alliés ont augmenté leur budget de défense de manière tangible. Parmi les plus mauvais élèves, l'Allemagne a doublé ses dépenses militaires en 10 ans. Et pour la première fois, les États-Unis ont été dépassés, puisque la Pologne est désormais sur la première marche du podium, avec 3,9% de son PIB consacré à la défense. L'Europe de la défense a commencé à se concrétiser elle aussi, avec les achats et livraisons communes de munitions, et la relance.